France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
En ce mercredi 1er novembre, on vous emmène aujourd'hui sur les traces d'une disparition, ou plus exactement d'une évaporation. Dans son dernier essai, la philosophe, critique de cinéma et romancière Hélène Frappa enquête sur l'histoire et la portée d'une notion, le gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes en les manipulant. Elle y raconte comment, à partir d'un film de Cukor sorti en 1944, la notion est devenue concept et permet de traquer une stratégie qui consiste à mystifier la langue pour tordre les histoires intimes et collectives. Vers 15h50, ce sera l'heure de notre chronique consacrée à la littérature jeunesse. Aujourd'hui, c'est Raphaël Bott qui viendra nous parler de la manière dont plusieurs romans pour adolescents se saisissent de toutes sortes de références, et notamment cinématographiques. En fin d'émission, ce sont vos trouvailles de lecture qui nourrissent le grand jeu des pages musicales, grâce auxquelles on se quittera en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Hélène Frappa.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce livre paru dans la collection La Relève des éditions de l'Observatoire. Son titre, Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Vous êtes philosophe, romancière, critique de cinéma. Les auditeurs et les auditrices de France Culture vous connaissent bien en tant que telle, mais aussi parce que vous intervenez régulièrement dans l'émission Mauvais Genre. Vous avez produit aussi de nombreuses émissions pour la chaîne. Je pense par exemple à cette très belle émission sur le cinéma qui s'appelait Rien à voir et dont on peut encore écouter certains épisodes dans les nuits de France Culture. Ce livre, Hélène Frappa, c'est un livre porté, traversé par votre expérience de spectatrice de cinéma, d'abord bien sûr, mais aussi par de très nombreuses lectures. On va en parler tout à l'heure, mais vous le savez peut-être, ici on commence toujours par un questionnaire qui nous permet de découvrir nos invités en tant qu'ils sont d'abord précisément des lecteurs, des lectrices. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire ?
Non seulement je m'en souviens, mais c'est même le début de ma mémoire, je dirais. C'est-à-dire qu'avant avant cette époque, j'ai quasiment pas de souvenirs. Hein. Et c'est vraiment... c'est une période où je devais avoir 6 ans et demi, 7 ans. Enfin, c'était en CP, à l'école. Hein. Et c'est une période qui a coïncidé avec la mort de mon père, en fait, avec le suicide de mon père. Et ce qui était un timing plutôt, ce qui était un bon timing, si je puis dire, puisque précisément j'ai commencé à partir de là à lire et j'ai plus fait que ça. Je pense qu'il y a aucune différence en quelque sorte entre la lecture et l'écriture. L'écriture est le prolongement de la lecture, en fait, et les livres que nous écrivons nous lisent aussi, de même que les films nous regardent, et nous les lisons en les écrivant, donc c'est vraiment c'est la même activité. Mais c'est vrai qu'à partir de là, mes souvenirs se sont confondus avec des souvenirs de lecture et une pratique complètement compulsive de lecture, comment dire, aussi bien de fantômettes que de livres qui étaient absolument pas de mon âge d'ailleurs, mais qui étaient à ma portée à hauteur de bibliothèque et voilà.
Est-ce que très concret...
Et une enquête aussi, parce que je pense que lire c'est enquêter, toujours. Les lecteurs sont des enquêteurs aussi. Alors moi c'est vrai que j'ai tout de suite aimé des personnages d'enquêtrices, je parlais de fantômettes, mais il y en avait d'autres aussi. Et puis j'ai lu et écrit en même temps, je faisais des sortes de remakes un peu foireux, je pense, de romans d'Agatha Christie, ou toujours d'enquêtes. On comprend des années plus tard ce sur quoi on enquêtait, en fait. Mais il y a quelque chose de très fort là-dedans, je pense.
Et vos livres prennent très souvent, vos livres à vous, la forme de l'enquête. On va en parler pour ce livre-là. Très concrètement, vous vous souvenez de l'apprentissage du déchiffrage des mots ou de l'apprentissage de l'écriture? Parce que souvent, ça, très précisément, comme vous le disiez, ça se confond. Mais très concrètement, je veux dire, on se souvient autant avoir appris à déchiffrer un mot, si on s'en souvient, qu'avoir appris à écrire les premières lettres, ou c'est plus flou que ça?
Alors écrire, j'ai un souvenir précis d'écriture, qui est un souvenir d'ailleurs d'humiliation. Il s'est confondu d'ailleurs, probablement, enfin je sais pas si c'est un souvenir reconstruit ou pas, parce que comme je le disais, j'en ai vraiment très peu. Pour moi, la lecture, c'est un peu comme un de mes livres préférés, qui est le livre de Dante, La Vita Nova, qui commence par au début du livre de ma mémoire, où peu de choses se peuvent lire. Donc en fait, c'est un livre sur la mémoire qui commence par un oubli complet, et puis par ce premier, le début de la Incipit Vita Nova, le début de la vie de cet auteur qui est Dante, et qui commence à 9 ans quand il rencontre cette petite fille de 9 ans, Béatrice. Moi, je pourrais dire ça, mais en parlant de la lecture et de l'écriture. Alors l'écriture, oui, j'avais ça devait être une maîtresse, comme on disait, une instite, qui m'avait, je tenais mon stylo apparemment très verticalement. Je m'en serais jamais souvenue si elle n'était pas venue me donner un coup sur la main en me disant tu tiens ton stylo comme un ouvrier son pieu, donc avec un mépris,
drôle de formule,
ouais, ouais. Un mépris pour les ouvriers à l'évidence. C'est d'autant plus idiot que bon, il y a une dimension d'artisanat dans l'écriture qui est évidente. On pourrait dire dans la lecture aussi. Donc ça, je m'en souviens. Je pense que c'était lié sans doute. Mon père était peintre et je pense qu'il y a, quand ça m'est revenu un jour, il avait dû m'apprendre probablement, je sais pas trop de souvenirs comme je l'ai déjà dit, à dessiner à l'encre. À l'encre de Chine.
La plume.
Voilà, à tenir verticalement, je sais pas. Et puis, là, ce dont je me souviens de l'écriture, c'était surtout ce sentiment de maîtrise qui, je pense, m'échappait beaucoup dans le réel, mais revenait dans les dictées, par exemple. J'avais une passion pour l'orthographe, une passion pour la grammaire, que j'ai eue tout de suite, en fait, parce que j'avais un sentiment de maîtriser. C'est quelque chose que j'ai ressenti en lisant des années plus tard, un de mes livres préférés, Enfance, de Nathalie Sarraute, où elle parle bien de... Alors elle avait une autre expérience. C'était en quelque sorte aussi une orpheline, puisque sa mère avait disparu, en quelque sorte. C'était un peu évaporé, c'était complètement évaporé, sa mère. Et puis elle avait une expérience d'être apatride dans la langue, pas seulement dans la langue. Et c'est vrai qu'elle, voilà, il y avait quelque chose qu'elle ressentait à nouveau qui lui appartenait, qu'elle pouvait maîtriser en quelque sorte. Bon, l'écriture, c'est pas un lieu de maîtrise, je trouve, en tant qu'écrivain. Mais l'écriture, au sens, ce moment d'apprentissage, ça l'a été. C'était une maison très habitable, en tout cas.
Est-ce qu'il existe une photographie de vous, enfant ou adolescente, un peu plus tard, un livre à la main?
Alors ça, il y en a tellement. Enfin, j'ai pas tant que ça de photos de moi, mais...
Ah ben, c'est pas si courant, figurez-vous. Cette question qu'on adresse aux invités très souvent ici, la plupart des gens nous disent, ah non, pas du tout, il y a pas de photos de moi avec un livre.
Ah, moi, j'en ai. Je pense, oui, si, j'en ai, l'air complètement absorbé, détournant le regard, justement, ne regardant pas, mais lisant. C'était vraiment, je faisais ça à peu près jour et nuit, hein, donc c'était...
Si on voulait vous prendre en photo, a priori, on tombait sur vous avec un livre à la main. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un lieu favori pour lire, que ce soit un lieu à l'intérieur de votre maison ou un lieu ailleurs, dans le train, dans le métro?
Non, je peux lire partout. Je me souviens, il y a longtemps, j'étais allée à Tanger présenter un de mes livres. C'était une très, très belle rencontre dans une très belle librairie de Tanger qui s'appelle Les Insolites. Et il y avait un petit garçon, enfin, c'était un adolescent, il avait 14 ans, qui était là avec sa mère et qui suivait la rencontre. Et j'étais très, très frappée, très touchée par ce jeune lecteur. Et puis, sa mère est venue acheter mon livre. Et puis, il était derrière sans un mot. Et puis, elle a dû me dire, je pense qu'il lisait beaucoup. Et j'ai vu que c'était un vrai lecteur, un grand lecteur. C'est des trucs, on se reconnaît. C'est comme une sorte de secte. Et je lui ai demandé, je me souviens, je lui ai dit, tu lis le matin quand tu, je sais pas si tu manges des biscottes ou des céréales ou peu importe, mais tu lis en fait ce qu'il y a derrière le paquet. Effectivement, tout de suite, il m'a dit oui. Puis il a commencé à parler. Donc, je pense que quand on lit vraiment littéralement tout et n'importe quoi, partout. Les questions sur les rituels, moi, elles me font un peu rire parce que pour avoir une vie très ritualisée, il faudrait vraiment avoir une vie qui correspondrait à une existence d'auteur bourgeois, rentier du 19e, enfin, avec son, je sais pas, des ce qui n'est pas ma vie, ce qui est une vie, bon, avec, faite de toutes sortes de contraintes. Donc, je lis quand je peux, mais c'est-à-dire un peu tout le temps. Il y a des périodes aussi qui sont des périodes existentiellement, je pense que tout le monde les connaît, où on n'arrive plus à lire.
On n'arrive pas à lire, ouais, bien sûr.
Et ça, c'est très triste.
Vous arriveriez à dire qu'est-ce qui se passe pour nous quand on n'arrive plus à lire? Qu'est-ce qui fait que dans notre tête, il n'y a plus l'espace pour cette activité-là, si le terme est le bon?
Je pense qu'il n'y a plus le temps de la liberté, en fait. C'est un temps de liberté. Je pense que, je ne sais pas très bien, et c'est d'ailleurs l'un des sujets, c'est probablement le sujet du livre dont on va parler, mais la question de l'effectuation concrète de la liberté. En quoi consiste à nous, être humains, notre liberté dans notre vie de citoyen, dans notre vie d'être humain, dans notre vie conjugale, etc. C'est une vraie grande question. Je n'ai pas entièrement la réponse à ça. En revanche, là où j'ai une petite réponse quand même, c'est que je pense que nous vivons cette une forme de liberté incontestablement, pas seulement d'émancipation, mais aussi de liberté, ce qui n'est pas la même chose, dans la lecture et dans l'écriture, encore une fois, qui sont le prolongement l'une de l'autre. Donc probablement que quand nous sommes, je dis un nous collectif, c'est une expérience collective, je pense, pour des raisons diverses, mais en manque de cette liberté-là ou incapable, privé, disons, de cette liberté-là à ce moment-là, qui va avec une temporalité aussi. Hein. La liberté, c'est pas dans l'instantané. Il faut du temps pour qu'elle s'effectue. Bah, dans ces cas-là, moi, je sais que qui peut être une liberté psychique, une liberté matérielle, etc. J'arrive pas à lire. J'arrive toujours à aller au cinéma. Donc, dans ces cas-là, je me venge en essayant d'y aller deux fois plus.
C'est intéressant que vous parliez de la lecture comme une expérience collective, parce que le lieu commun, le cliché, c'est que la lecture, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, tout simplement, parce que concrètement, quand on lit un livre, la plupart du temps, pas toujours, mais on est tout seul. En quoi vous diriez que c'est une expérience collective?
C'est une expérience politique, même. Je pense qu'elle a à voir avec le rôle, la fonction politique de l'auteur, qu'il le veuille ou non. Hein, qui, d'ailleurs, c'est un mot qui vient du droit romain. Auteur, c'est celui qui s'autorise, qui s'autorise socialement. Je veux dire qu'il y a une voix au chapitre. D'abord, comme le dit Stephen King dans son très beau livre Écriture, mémoire d'un métier, la lecture, c'est une expérience de télépathie. Puisqu'il s'agit d'être télépathiquement, c'est une expérience de télépathie à plusieurs niveaux, avec l'auteur. Donc, c'est pas si éloigné d'une certaine manière de ce qu'on fait au cinéma, c'est-à-dire on communique en quelque sorte avec un mort, puisque l'auteur du livre que nous sommes en train de lire n'est pas celui au moment où nous le lisons, même s'il est pas mort, je veux dire, il n'est pas celui exactement qu'il était au moment où il a écrit ce livre, et puis nous communiquons avec les personnages par télépathie aussi qu'il a créé. Donc déjà il y a un peuple hein, qui se crée, et puis nous communiquons avec tous les mois que nous avons été. C'est pour ça que l'expérience, il y avait un très beau livre il y a quelques années de Viviane Gornick sur justement qui relisait une grande auteure américaine qui relisait qui faisait l'expérience de la relecture, voilà, mais et du coup qui était une manière de se relire soi-même, c'est-à-dire elle se revoyait à telle époque lisant tel livre, etc. Donc tout ça fait que ça n'est pas du tout une expérience solitaire.
Est-ce que vous êtes une grande relectrice, justement? Oui, est-ce oui, que oui. Vous revenez
J'oublie,
sans arrêt
en plus,
vers
comme
les mêmes...
je le disais en commencement, c'est peut-être parce que je suis amnésique au départ hein, que j'ai une capacité à la fois j'ai à vrai dire une grande mémoire et doublée d'une capacité d'oubli totale, mais c'est génial en fait parce que du coup je peux relire indéfiniment. En plus je me souviens pas vraiment des histoires moi en fait. D'un côté, j'adore les histoires, mais je les oublie. Je me souviens de choses très précises, des personnages. Donc, je peux relire indéfiniment. Je peux revoir les films indéfiniment.
Par exemple, un livre qui serait celui vers lequel vous revenez comme ça sans arrêt.
Je serais presque capable d'oublier qu'Anna Karenine, à la fin, désolé pour le spoiler, se fout sous un train. En revanche, de me souvenir de son petit sac rouge hein, qu'elle a, son sac rouge tellement déchirant, je ne sais pas pourquoi, qu'elle a avec elle quand elle se jette sous le train. D'ailleurs, est-ce qu'elle se jette avec le sac? Probablement. J'avais oublié, par exemple, quand j'ai relu ce livre... incroyablement beau qu'elle était. C'est une écrivaine en fait, Anna Karenine. On l'oublie d'autant plus qu'elle-même l'oublie. C'est-à-dire, elle écrit des livres pour enfants très beaux. Et puis elle est complètement jeune, qui aussi ça aussi j'avais oublié. Elle se fait des piqûres de morphine.
Donc chaque nouvelle expérience de lecture est une redécouverte.
Ah oui, livre. Complètement. Et puis j'ai dans une naïveté d'enfant, vraiment ça. Je pense que peut-être même d'ailleurs, enfin j'ai jamais réfléchi, mais c'est vos questions qui m'y font penser que nous dédoublons, ça fait partie aussi de ce peuple de lecteurs. Nous continuons à lire avec le regard que nous avions au départ et à écrire avec, en l'occurrence ce pieu moi que je tiens comme un ouvrier son pieu, quelle drôle d'image. Et puis nous grandissons comme lecteurs et nous revenons, nous faisons en permanence cette expérience comme des mues, comme ça, qui nous dépouillons de nos peaux, mais en même temps nous avons toujours ce premier regard. Moi je peux relire des fantomètres par exemple, d'ailleurs je le fais régulièrement.
Vous avez parlé de l'expérience de la lecture comme une expérience de télépathie, de communiquer avec les morts. Dans le livre dont on va parler, il y a un film au centre qui s'appelle Gaslight de George Cukor et son titre français c'est Antise. C'est pas un hasard. Pour arriver à ce livre, je vous propose qu'on écoute une chanson. C'est la chanteuse Eloi qu'on va écouter et c'est un extrait de son dernier album.
Le Book Club, Mathilde Wagman.
C'est une réflexion en forme d'enquête, un livre qui fraye sa voie entre plusieurs chemins, celui de la critique de cinéma, de la philosophie, de la littérature et de la pensée féministe. Dans votre essai « Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes », Hélène Frappa, vous partez de l'histoire d'une notion, le gaslighting donc, apparu dans la suite d'un film de Georges Cukor réalisé en 1944 et intitulé « Gaslight ». Le titre français ça a été « Antise ». En version originale, c'est « La lampe à gaz ». Le terme fut employé en suite pour désigner un certain art de la manipulation des femmes, celui qui consiste à les faire passer pour folles pour mieux les réduire au silence. Mais on le sait bien, l'intime, c'est politique. Situé d'abord dans le champ du domaine conjugal, cette notion résonne d'une manière singulière avec le contemporain, à l'ère de Trump, des fake news et des théories du complot. Or, c'est d'abord par un détournement du langage, des mots, que procède la manipulation. Vous le montrez, ce qui fait de votre enquête une réflexion très profonde sur le langage. À la fin du livre, Hélène Frappa, vous racontez comment, quand vous avez découvert ce film de Cukor pour commencer cet entretien. Je voudrais qu'on commence par la fin, par là. Comment ça s'est passé? Quel âge vous aviez? Est-ce que vous vous souvenez encore de la toute première vision du film?
La toute première, je pense pas, parce que... Je l'ai vu il y a très 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 longtemps. Je l'ai tout de suite revu pas mal de fois. J'ai dû le voir au cinéma la première fois. Non. Mais tout de suite, tout de suite le film m'a hanté. Il m'a fait très très peur. D'ailleurs, il m'a fait très très peur pendant très très longtemps. Il continue d'une certaine manière quand je le vois. Mais j'ai mis des décennies à comprendre aussi l'ironie qui est extraordinaire dans ce film et qui en fait précisément une arme d'émancipation, je pense.
À quel moment est-ce que ça se joue pour vous, l'idée que, partant de ce film, vous allez construire un livre? Est-ce que c'est d'abord l'envie de revenir à ce film? Parce qu'il y a une chose vraiment assez fascinante dans l'ouvrage, c'est la manière dont, à travers l'étude et l'histoire de cette notion, de ce concept, qu'est le gaslighting, Vous revenez sans arrêt au film et vous plongez dans une analyse très précise du film. Est-ce que c'est d'abord l'envie de parler de ce film ou est-ce que c'est l'apparition de cette notion dans le domaine public, disons d'abord aux États-Unis, qui vous donne l'envie de lui consacrer un essai?
Mais disons que j'aimais ce film, je l'adorais, j'adorais le côté gothique. J'ai écrit il y a quelques années un roman gothique qui s'appelle Lady Hunt, donc c'est vrai que c'est un genre qui m'a toujours fasciné. Peu à peu, j'ai creusé ce genre, j'ai découvert effectivement qu'il y avait eu par exemple dans les années 70 aux États-Unis un texte précurseur sur ce plot, enfin cette intrigue archétypale de la femme folle au grenier, ce qu'elle signifiait, etc. Et puis étant traductrice aussi de l'anglais. Alors l'anglais, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a plein de langues anglaises et états-uniennes, etc. Mais j'ai vu apparaître en effet ce mot il y a déjà assez longtemps. Et un jour, je me suis dit mais gaslighting, to gaslight someone, est-ce que ça aurait un rapport avec le film? Je suis allée chercher et j'ai vu qu'évidemment ça découlait de ce film et j'ai été sidérée. C'est-à-dire j'ai trouvé ça bouleversant, précisément par mon rapport au cinéma. Moi, c'est vrai que j'aurais du mal à faire la différence entre la lecture, on parlait de la découverte de la lecture et la découverte du cinéma qui ont lieu pour moi en même temps, avec la même force d'hypnose. C'est des hypnoses différentes, mais je pense que quand nous lisons et quand nous écrivons, nous pratiquons une forme d'auto-hypnose, disons, et le cinéma a cet effet aussi d'hypnose sur nous. Par ailleurs, j'ai toujours pensé depuis longtemps, quand à l'époque où je faisais des études de philo, et à l'époque c'était pas tellement audible, enfin, dans des sphères académiques, que le cinéma était un lieu de pensée extraordinaire, probablement le lieu de pensée le plus fort pour moi dans les arts, et qu'il était un lieu toujours en avance, en fait, un laboratoire, en fait, un laboratoire politique de la société. Et peu à peu, j'ai compris à travers ce mot et son usage, alors qui était un usage avant que, là je parle de avant le moment où il est devenu extrêmement avec la première campagne de Donald Trump aux États-Unis, c'est un mot qui s'est mis à envahir tout l'espace public, hein, avec cette idée que ce candidat fasciste a cette forme de fascisme états-unienne que moi j'avais, sur laquelle j'avais pas mal réfléchi quand j'avais traduit le texte d'Adorno, les essais sur la personnalité autoritaire, hein, Trump cochant absolument toutes les cases de ce que Adorno décrit comme la personnalité autoritaire états-unienne. Donc
c'est une notion qui apparaît vraiment comme telle, voilà, aux États-Unis.
C'est-à-dire, des journalistes à ce moment-là disent il gaslight l'Amérique, le pays.
Donald Trump gaslight l'Amérique.
Et qu'est-ce que ça veut dire, il gaslight l'Amérique? Ça veut dire que, à travers la post-vérité, à travers ce détournement, cette perversion du langage, cette capacité par exemple à dire qu'il fait beau alors qu'il pleut à torrent, cette manière la post-vérité n'étant rien d'autre qu'une forme de mensonge, il va manipuler en fait toute l'opinion. Donc moi je suis retournée à ce moment-là étudier cette notion qui était aussi beaucoup avant employée plutôt dans un vocabulaire queer, qui est lié aussi, hein, qui découle aussi du film de Cukor, c'est-à-dire une forme de détournement ironique qui consiste à partir de ce film à tourner en dérision ce qui est le sujet de ce film, c'est-à-dire tous les attributs, disons, du mariage dans sa forme la plus traditionnelle, où une femme va se retrouver littéralement prise au piège, hein, prisonnière d'une grande maison gothique avec un mari qui, en réalité, est-ce qu'il veut la tuer ? C'est plus compliqué que ça. Si vous voulez la tuer, il ferait ce qu'il a fait avec sa tante, il la tuerait. Veut la manipuler et la convaincre peu à peu qu'elle est folle, qu'elle perd la raison, la convaincre à douter d'elle-même jusqu'à douter de sa propre existence.
Oui, ce qui est très beau dans le livre, c'est que si on n'est pas très familier de la notion de gaslighting, et si on a... Bon, qu'on ait vu ou pas le film de Cukor, d'ailleurs, peu importe, on la comprend, cette notion, vous nous la faites comprendre à travers, d'abord, la description de l'intrigue du film.
C'est passionnant, ça. Enfin, je veux dire,
pour les auditeurs, je voudrais qu'on raconte tout simplement, est-ce que vous pouvez nous résumer, en vous adressant à quelqu'un qui n'a pas du tout vu le film, de quoi ça parle, ce film?
C'est une jeune fille qui a perdu ses parents, qui est orpheline, et qui va perdre la femme qui s'est occupée d'elle, sa tante, qui lui a servi de parent, du coup. Cette tante qui était une cantatrice mondialement célèbre, qui s'appelait Alice, et qui est morte mystérieusement étranglée par un inconnu. L'enquête n'a pas abouti. Cette jeune fille donc quitte sa maison. Des années plus tard, devient, comme sa tante, cantatrice, du moins une apprentie cantatrice. Et à ce moment-là, elle rencontre un homme qui est un pianiste qui l'accompagne, qui va la séduire, l'épouser et la convaincre de revenir habiter dans ce qu'elle appelle la maison des horreurs, c'est-à-dire cette maison qui est fermée depuis que sa tante y a été assassinée. Cet homme qu'elle rencontre, elle l'a pas du tout rencontré par hasard, puisque c'est en fait le meurtrier de sa tante qui avait assassiné...
Elle ne le sait pas, bien sûr.
Elle l'ignore. Elle ignore aussi qu'il est déjà marié, donc il est bigame. Il avait assassiné sa tante parce qu'il convoitait, ce qui est la chose qu'il convoite le plus au monde, c'est-à-dire les bijoux que possédait sa tante. Il ne les a pas trouvés et pour les trouver, il va épouser cette jeune femme. Ne pas l'assassiner comme il a assassiné la tante, mais se livrer à une manipulation de la lumière dans la maison, en baissant et en montant les lampes à gaz.
D'où le titre du film.
D'où le titre du film. Marcher dans le grenier à la recherche des bijoux, donc elle entend des bruits, etc., etc. Et peu à peu, cette jeune femme va arrêter de chanter, arrêter de parler, arrêter de vivre, se recroqueviller complètement, en proie à justement cette forme de manipulation de sa raison, qui part d'une manipulation de la lumière dans la maison.
Cette jeune fille, c'est Ingrid Bergman. L'homme qu'elle épouse pour son plus grand malheur, c'est Charles Boyer. Je vous propose qu'on écoute un extrait du film. Ça se passe dans la toute première partie du film. Ils vivent dans cette maison et ce mari, donc, ne cesse de la tourmenter sournoisement.
Oh, voilà. You might give me your brooch, so I can have it repaired. What's the matter? Anything wrong?
Oh, Paula, j'y pense, donne-moi ta broche, que je la fasse réparer. Que se passe-t-il? Rien de sérieux?
Oh non, non, non. Oh, Grégory, je ne la trouve plus.
Quoi?
Je m'en suis aperçue à la tour. Il faut que je regarde encore dans mon sac. Je sais qu'elle était là. Je ne comprends pas. Je ne peux pas l'avoir perdue. Elle doit y être.
Je suis persuadé qu'elle est là.
Non, hélas.
Paula, que te disais-je? Quelle légèreté. Comment l'as-tu égarée?
J'ai pu la perdre en ouvrant mon sac, je suppose. Oh, comme j'en suis peinée, Grégory, pardonne-moi, je t'en prie.
Oh non, ce n'est pas aussi sérieux que cela, chérie. Elle n'a qu'à valeur d'un souvenir.
Mais c'est la broche de ta mère, c'est son cadeau, et j'aurais voulu la porter tous les jours. Et je ne me souviens pas avoir ouvert mon sac. J'ai dû pourtant l'ouvrir. Tu l'as mise dedans.
Oh, tu ne te rappelles même plus cela?
Si, je te vois encore. Mais c'est étrange, je commence à douter de ma mémoire soudain.
Cet extrait de Gaslight de George Cukor et la manipulation de Charles Boyer dans ce film à l'égard d'Ingrid Bergman qui en finit par douter de sa mémoire. En quoi est-ce que ce moment-là du film, il incarne, il illustre parfaitement ce qu'est le comportement de celui que vous appelez le gaslighter, Hélène Frappa, et que vous analysez dans cet essai?
Il a volé la broche, c'est-à-dire il lui offre une broche en prétendant que c'est la broche de sa mère, ce n'est pas la broche de sa mère. Il l'épouse en prétendant l'épouser, il ne l'épouse pas puisqu'il est déjà marié. Il lui dit qu'elle perd beaucoup les objets, c'est faux, il subtilise la broche. Donc tout cet épisode des bijoux, sachant que le film tourne obsessionnellement autour des bijoux. Il va y avoir une broche qu'il va subtiliser. Ensuite, il y aura une montre où il fera l'inverse. Il manipulera sa femme, sa fausse femme, en lui faisant croire qu'elle-même a volé la montre que lui a mis dans son sac. Donc, soit il retire les objets, soit il les remet. C'est un perpétuel numéro de prestidigitation. C'est pour ça que le mot pchit revient beaucoup dans le film. Et cette idée aussi, cette forme de traduction que je propose de gaslighting par évaporation. Il s'agit d'évaporer quelqu'un dans un sens qu'on n'emploie pas généralement. On dit pas que
en général c'est pas transitif. Voilà, on dit quelque chose s'évapore. Pas quelqu'un évapore quelqu'un d'autre.
Là c'est une femme un peu comme dans mon précédent livre qui s'appelait Trois femmes disparaissent, où il s'agissait au fond de femmes de stars hollywoodiennes qui avaient été disparues. Là c'est une femme qui a été évaporée. Et donc à partir de cet objet qu'il enlève, etc. Il lui fait douter, il l'a fait douter de sa raison, il l'a fait douter de sa mémoire, c'est-à-dire il l'a fait douter de toutes ses qualités psychiques, de ses qualités intellectuelles, de tout ce qui la constitue comme être humain. Il va la faire douter du langage, il va la faire douter du sens des mots, c'est-à-dire du sens commun. Donc peu à peu, il va la déshumaniser, en fait, lui enlever tout ce qui la raccroche à la réalité, mais tout ce qui fait d'elle un être humain.
Ce qui est passionnant dans le livre, c'est la manière dont, sans arrêt, vous nous faites faire des allers-retours entre la dimension intime et la dimension collective, ou plutôt la manière dont vous faites apparaître à quel point la dimension collective, intime est politique, pour le dire autrement. Très concrètement, dans l'analyse que vous proposez du film de Cukor, ça passe notamment par l'analyse que vous faites de l'intervention des témoins dans le film, c'est-à-dire que, fort heureusement, et sans vouloir trop gâcher la fin du film, mais je pense qu'on peut le savoir, ça n'a aucune importance, elle va finir par bien s'en sortir, Ingrid Bergman. Et très concrètement, ça passe par l'intervention de non pas un, mais deux témoins. Il y a d'abord une vieille dame qui habite à côté et qui va remarquer qu'il se passe quelque chose dans cette maison d'un peu étrange. Et puis, il y a un homme qui a connu sa tante quand lui était enfant, et qui est policier et qui va l'aider à intervenir. Qu'est-ce que la figure du témoin dans le film permet de comprendre de la dimension politique du terme?
Le témoin a une fonction éthique et politique. Le film date de 1944. Cukor est juif. Il est né à New York, mais sa famille est en Hongrie. Enfin, une partie de sa famille est en Hongrie. Le film est tourné pendant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cukor a son génie, disons, de cinéaste, lui permet d'anticiper, d'avoir un don de voyance qui est celui des grandes œuvres. Il s'agit là pas juste d'un chef-d'œuvre. Il y en a des chefs-d'œuvre, il y en a un certain nombre, pas tant que ça, mais Cukor en a fait beaucoup. Là, c'est une œuvre vraiment qui a un don de prescience sur son époque. Enfin, en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. C'est-à-dire qu'elle regarde aussi son époque. Elle y voit quelque chose qui, alors certes, la guerre est là, mais à l'époque où il tourne le film, on ne sait pas encore ce qui se passe dans les camps, dans les chambres à gaz. C'est un film qui est entièrement envahi par cette présence d'une brume et du gaz, d'une persécution.
Oui, c'était le brouillard londonien renvoie à les gros plans sur ces fameuses lampes à gaz dont l'intensité baisse et dont Ingrid Bergman ne comprend pas pourquoi elle baisse.
Et surtout, c'est un film qui noue intimement la question de la destruction, de la manipulation et du comment dirais-je, Hannah Arendt dans son texte sur le Watergate dit c'est la manière dont le mensonge et la violence sont noués, mais là la destruction et sa négation sont déjà nouées, c'est-à-dire cette idée que, pour en revenir au nazisme, hein, pour dire les choses clairement, non seulement le nazisme est un projet effectué d'extermination d'un peuple, hein, de plusieurs peuples même, mais dans ce projet d'extermination, il y a aussi l'oubli. Il faut qu'il y ait l'oubli. Il y a la destruction et il y a la négation. Il y a le négationnisme qui va d'ailleurs apparaître et qui est absolument lié. Hein, Hitler avait dit « Qui se souvient des Arméniens ?» comme un premier round, en quelque sorte, une répétition générale.
Et c'est une donc dimension fondamentale du crime lui-même.
Cette dimension, elle est fondamentale. Et elle est fondamentale. Comment dirais-je, c'est ça le cœur pour moi politique, hein, de cette question du gaslighting, c'est que la forme extrême du gaslighting, c'est le négationnisme. C'est-à-dire que c'est un rapport au langage qui non seulement le pervertit, qui pervertit le langage humain, donc le témoin, quelle est sa fonction? Elle est essentielle. Parce qu'en effet, le gaslighting se fait à deux, mais on ne s'en sort qu'à trois. Il faut être deux, c'est-à-dire être dans une relation, un type de situation sans témoin, comme le mariage l'est. Le mariage et sans témoin. C'est pour ça que ce type de cruauté, ce type d'entreprise de manipulation est possible. En effet, Ingrid Bergman, le personnage dans le film, va s'en sortir d'abord par l'apparition d'un personnage qui est d'autant plus fascinant et bouleversant pour moi que c'est quelqu'un qui a joué aussi un rôle dans, pour moi, peut-être le premier film qui va anticiper à la fois la destruction des Juifs d'Europe et la négation de cette destruction. C'est le film d'Hitchcock, Une femme disparaît. C'est du moins la lecture que j'en fais. C'est un film qui date juste d'avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, où une vieille dame qui est interprétée donc par la même actrice qui va jouer ce témoin dans le film de Gaslight va être kidnappée. Donc c'est une espionne au service de Sa Majesté de l'Angleterre et donc de la reine d'Angleterre. Elle va du roi d'Angleterre, pardon. Elle va roi ou reine, j'ai un doute. Elle va être kidnappée et aussitôt a-t-elle été disparue que ceux qui l'ont kidnappée, donc des nazis et des fascistes dans le train, vont dire « Mais en fait, elle a jamais existé. De quelle vieille dame vous parlez ?» Et une jeune enquêtrice qui s'appelle Iris comme l'œil, va dire « Mais je l'ai vue. » Et on va lui dire « Mais tu es folle. » Elle n'a... Voilà. Donc, ces deux films sont vraiment... Il y a quelque chose de sidérant hein, dans le lien. Donc, entre ces deux films, à travers donc cette vieille dame qui est bavarde, qui est une pipelette, ce qui est très important parce qu'il s'agit justement de femmes et de chanteuses. Hein, c'est pas du tout un hasard si dans le film de Cukor, il y a deux chanteuses. Il y a Alice, l'ancêtre, et puis sa fille, en quelque sorte, symboliquement, qui elle aussi veut chanter, mais qui dit « mais je n'ai pas de voix », n'est-ce pas ? Et dont la voix va s'éteindre. Et il faudra donc cette vieille dame, puis un policier qui croira, hein, parce que la fonction du témoin, c'est de croire. Puisque ces femmes, en fait, qui sont tues, ou ces peuples qui sont tues, on leur retire leur crédibilité. Toute la question, elle tient à la non-crédibilité et comment elle s'installe. Donc le témoin va être celui qui, plus qu'assister à quelque chose, va croire la personne ou le groupe qui a vécu ça.
C'est l'histoire d'une femme évaporée. Pas celle qu'on trouve dans les dictionnaires de référence, tel celui de l'Académie française, dont la 9e édition illustre l'adjectif évaporé par cet ordre, cesser de jouer les évaporés. La femme évaporée de ce livre ne joue pas. Évaporée, elle l'est au sens transitif. Elle a été évaporée. Comment ? Par qui ? Pourquoi ? Privée de raison, d'intelligence, de crédibilité, de santé mentale, elle est folle, de santé physique, elle a des vapeurs. La voilà qui correspond au portrait type de la femme évaporée. Étourdie qui manifeste une excessive légèreté qui se dissipe en choses frivoles. Pourquoi lui consacrer un livre ? Parce que j'aime les romans policiers. Or, ce livre se propose de résoudre une énigme. Qui a tenté de commettre ce crime, ne consistant pas à décrire les femmes en troupeaux décervelés, mais purement et simplement à tenter de les faire disparaître. Ce crime a beau être agrammatical, évaporer quelqu'un est un néologisme, il n'en est pas moins littéral. Pchut. Voilà le bruit excessivement léger que font les femmes en s'évaporant. Presque un silence. Cet essai, en forme d'enquête, monte le son.
C'est l'ouverture de votre livre, Hélène Frappa, lu par Oriane Delacroix, qui a merveilleusement interprété ce fameux pchit, le son dont vous parliez tout à l'heure. Ce texte, je voulais le faire entendre pour plusieurs raisons, mais d'abord peut-être pour parler de la dimension ironique de votre écriture, au meilleur sens du terme, de la façon dont c'est un livre extrêmement drôle, c'est un livre qui fait beaucoup rire, et il y a quelque chose de très émouvant à constater que vous faites usage de cette arme-là, alors même que vous nous décrivez dans ce livre le mouvement, la trajectoire qui est celle d'Ingrid Bergman dans le film, qui s'en sort par l'ironie à la fin, et que vous analysez la façon dont l'ironie, très précisément, et l'humour plus généralement, et l'arme qui permet de combattre les gaslighters, le gaslighting, et notamment à travers la figure d'Antigone. Est-ce que ça a été quelque chose de conscient chez vous dans l'écriture, du fait que vous-même, vous utilisez l'arme que vous analysiez, si je puis dire?
Ben ça, ça prend un certain temps. Je me souviens qu'il y a quelques années, mon éditrice, l'éditrice de mes romans chez Actes Sud, Myriam Anderson, me disait que c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile d'être drôle dans l'écriture. Dans la vie, c'est différent, c'est pas pareil. Et il faut sans doute un certain temps, à moins d'avoir cette capacité comme ça tout de suite de que les deux soient. Cette capacité, finalement, j'ai compris récemment que d'exprimer la tragédie sous sa forme à la fois littérale et du coup assez drôle, parce que la littéralité peut être un truc assez drôle. Après, c'est vrai que, comme disait Arendt, Hannah Arendt, que je cite abondamment dans ce texte et qui, alors, en termes d'ironie, en connaissait évidemment un rayon, l'ironie, c'est une forme de vie, en fait. Et c'est une forme de vie, et je pense que le rire est probablement la décharge, on pourrait dire, enfin l'expression organique qui accompagne la liberté. Pour moi, voilà, pour le dire très simplement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et j'ai eu il y a fort longtemps, quand je faisais des études de philo, j'avais écrit une thèse sur Kant, un auteur d'ailleurs qui est injustement considéré comme ennuyeux et très sérieux, qui en fait a énormément d'humour. Et c'est vrai que l'université de mon époque avait, pour le coup, manquait un peu d'humour à mon goût, mais je sais plus du tout ce que je voulais dire. Je ne sais plus du tout, je me suis perdue dans...
Sur l'humour, on est parti de l'humour et de la force de libération, liberté. Oui. Qui procure cette découverte dans l'écriture.
Non, en fait, voilà, ce temps qu'il a fallu effectivement pour coïncider avec cette forme même de. Oui, voilà. Non, je sais très bien où je voulais en venir. C'est la question des effets, en fait, des effets. Moi, à l'époque, j'étais obsédée, c'était mon côté fantomète, par l'idée, et on revient au début de la lecture, par l'idée qu'un livre, ça devait servir probablement, parce que moi, quand j'ai commencé à lire, ça m'a vraiment servi littéralement à survivre. Donc, je pensais que la lecture était pas un passe-temps, ni un hobby, ni un truc aussi décoratif que... Enfin, je repense à l'image du pieu, là, à cette image finalement assez bourgeoise de la manière de tenir son stylo, etc. Il en allait vraiment d'un truc de survie. Quand j'ai fait ensuite de la philosophie et que j'ai étudié, pour citer mon grand amour de l'époque et tout à fait auquel je continue à être fidèle, donc toujours Emmanuel Kant... c'était une idée avec laquelle lui, et d'ailleurs tout le XVIIIe siècle, était fort... il ne cessait de l'affirmer, hein, si on pense à quelqu'un comme Diderot. L'idée qu'il fallait que les livres aient un effet, en fait. Un effet organique, un effet dans le corps, un effet dans l'existence, un effet dans l'émancipation. Et quand une lectrice écrivait en 1881, donc quand Kant était déjà, à l'époque, on l'appelait le Moïse de notre nation, donc c'était vraiment une superstar de la philosophie, lui écrivait parce qu'elle avait eu un horrible chagrin d'amour, qu'elle voulait se tuer. Et que, en même temps, elle avait lu Kant, elle trouvait que c'était un peu immoral, hein, par rapport à sa philosophie, ça ne respectait pas le premier devoir envers soi-même, etc. Donc, le suicide. Elle lui disait, je t'en conjure, réponds-moi, ou alors tu es incapable d'agir toi-même selon l'impératif que tu as mis en place. Et c'est d'ailleurs comme ça que commençait mon premier roman, qui prenait la suite de cette histoire-là, extraordinaire, d'une lectrice dans ce qu'on pourrait appeler, enfin dans ce que des académiques un peu misogynes, comme ce dictionnaire hilarant de bêtises hein, de l'Académie française. J'ai pas tout cité, mais il arrive à être dans la même phrase à la fois misogyne et homophobe, bon, ce qui est d'ailleurs pas... c'est pas très difficile à manière d'allier les deux. Bon, donc moi c'est vrai que j'avais cette idée qu'il fallait qu'il y ait un effet. Que ça serve en fait. Alors pas dans une optique, développement personnel qui ne sert que à faire des profits au libéralisme, à mon avis, mais dans une véritable optique existentielle. Donc cette question du rire, cette question de l'humour, cette question de la forme de vie, pour moi tout ça s'est noué, a mis beaucoup de temps à se nouer. Et en effet, comme vous le dites, tout est là dans cette histoire du gaslighting, c'est-à-dire d'écrire un livre en même temps qui produit sur son autrice, ça a été le cas, et j'en étais la première presque étonnée, et sur ses lecteurs, j'espère, un effet, comme dans le temps de la vision d'un film, vraiment une expérience, quoi, c'est-à-dire qu'on en sorte différents. Et qu'à la fin, on puisse effectivement avoir décrypté, être capable de traduire le gaslighting. Parce que le problème de ce langage, c'est qu'il faut le traduire.
Mmh. Non. Ou le déconstruire.
Il faut le traduire déjà parce qu'on n'y comprend rien, ouais. En fait. On est face à Alice... La petite Alice au pays des merveilles où le sens des mots change tout le temps. C'est Lacan parlant des femmes. Bon, on n'y comprend rien.
J'allais dire, c'est l'un des passages les plus hilarants du livre. Vous faites une analyse du séminaire de Lacan.
Ah, je pense qu'il vaut mieux, mieux en rire. Les petites dames, dames que nous sommes. Ça, je cite Lacan. Hein, il vaut mieux, à ce stade, il vaut mieux en rire. Et d'une certaine manière, c'est à peu près, à mon avis, le traitement philosophique que ce texte mérite. C'est-à-dire, un des moments de l'évaporation de la femme, d'un grand numéro de prestidigitation, en fait.
Et vous dites, ce livre doit être un manuel de combat, ce qui renvoie à des notions, à un imaginaire développé par la pensée féministe. Et précisément dans ce passage auquel je pense, où vous analysez de manière très drôle le séminaire de Lacan, vous citez, il me semble, ou je ne sais plus si c'est Lacan qui le fait en des termes dépréciatifs, mais le MLF. On se dit que...
Oui, les petites dames du MLF.
Voilà, exactement. Oui. On se dit que tout ça est aussi nourri de cette histoire récente là, et c'est pas tout à fait un hasard si c'est aussi des penseuses du féminisme qui se sont emparées de cette notion-là, le gaslighting.
Bien sûr, et je cite à la fin du livre d'ailleurs un texte magnifique de Hélène Cixous, qui a été un texte fondateur que moi j'ai découvert très tardivement, hein, où il est question aussi de rire, hein, de cette idée de rire, que la méduse n'est pas là pour nous figer, mais et que le rire, oui, est une forme d'émancipation. Pourquoi c'est une forme ? Comment c'est une forme d'émancipation ? Pas pourquoi ? Ben, précisément parce que c'est une manière d'arrêter de croire à un certain nombre de balivernes. Toute cette question du gaslighting, elle permet d'articuler, en fait, philosophiquement, la notion de croyance, la notion de crédulité et la notion de crédibilité. C'est-à-dire que c'est de l'histoire collective de femmes qui sont tombées dans un panneau qui, quand on le regarde de près, est vraiment un panneau. C'est-à-dire que l'histoire, quand on entendait tout à l'heure l'extrait, on voit que c'est quand même à la limite du ridicule, cette histoire de gaslighting. Je te trouve un peu fatiguée. Tu devrais rentrer chez toi, tu as pris tes médicaments, tu devrais peut-être aller te recoucher, tu es sûre que travailler pour toi c'est bien, tu devrais peut-être rester à la maison, blablabla. Bon, vous, d'un côté c'est ridicule, d'un autre côté n'importe quelle femme qui entend ça, une lueur d'effroi passe dans son regard. Nous l'avons toutes entendu. Donc, pourquoi nous y croyons ? Pas parce que nous sommes des petites dames, pour citer Lacan, trop crédule, mais parce que notre crédibilité, originellement, il s'agit de remonter à des mythes fondateurs, par exemple comme celui de Cassandre, qui est absolument génial, hein, nous a été, il y a très 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 longtemps, retiré, hein, que c'est une vieille histoire, une histoire si ancienne qu'elle en devient vénérable, hein, toutes ces vieilles histoires vénérables, du coup, qui ont une patine. Et donc, à partir du moment où le lien est déconnecté entre crédibilité, enfin, éclairci plutôt crédibilité et crédulité, il est temps de retirer notre croyance à toutes ces élucubrations, à certaines de ces élucubrations, qui font plus, et de pouvoir en rire, du coup. D'avoir cette liberté et cette libération par le rire.
On parle de l'effet produit par l'écriture, la lecture sur les lecteurs. Le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs qui, via le compte Instagram de l'émission, adresse des questions à nos invités. Je voudrais qu'on écoute la question que Louise vous adresse, Hélène Frappa.
Salut le Book Club, bonjour Hélène Frappa. Déjà, merci beaucoup pour votre livre que j'ai adoré. On a une lecture hyper fluide, beaucoup de références, c'est très complet, enfin, c'est vraiment chouette sur un sujet qu'on voit pas beaucoup. Moi, je voulais revenir sur le chapitre 3 de l'acte 1 sur le langage parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, quand on nomme la violence, souvent on met des mots, enfin le fait de mettre des mots sur quelque chose, ça permet de prendre du recul, parfois de régler le problème. Or, on voit que le gaslight, ben, il augmente énormément, il dépasse complètement la sphère privée et familiale. Et est-ce que vous avez une hypothèse, une piste sur ça, sur cette augmentation des violences psychologiques, alors même qu'on l'a nommé, qu'on sait parfaitement ce que c'est et qu'on est capable de l'avoir?
Merci Louise pour cette question. C'est intéressant le paradoxe qu'elle pointe dans cette question. On sait désormais nommer ce phénomène et pourtant, dit-elle, il augmente. Hélène Frappa, est-ce que vous avez une hypothèse ?
Alors, on sait le nommer depuis peu, hein, pour le coup. Alors, moi, je fais toute une généalogie de ce mot, parce que, comme vous le disiez au début, c'est un livre sur le langage, en fait. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis pas psy, je suis pas historienne, je pars du matériau qui est le mien, comme écrivaine. Ce matériau, c'est le langage, et c'est vraiment, c'est toute cette question-là, donc... trouver l'origine d'un mot, trouver ses ancêtres, d'où il vient, etc. Puis il y a le langage, il y a le mot, et puis il y a aussi la forme de langage qui est une forme de vie, le type de raisonnement, la manière de pervertir des raisonnements, etc. Alors, à partir du moment où ça devient un concept, c'était mon but, peut-être que les choses deviennent plus visibles aussi. C'est un peu comme quand on dit il y a une augmentation des violences conjugales, etc. Bon, il y a plus de plaintes. Peut-être que c'est ça, en fait, qu'il y a quelque chose qui n'était pas vu devient visible. Oui. Ce qui est d'ailleurs la fonction du cinéma. C'est pour ça que ce film est un film, comment dire, qui produit un effet de reconnaissance, un double effet de reconnaissance, c'est-à-dire nous reconnaissons, nous collectivement dans ce film, et en même temps nous avons du coup envers ce film aussi une forme de gratitude, de reconnaissance de ce qu'il nous dit et de ce qu'il nous fait voir.
Oui, il n'y a pas nécessaire augmentation mais identification par nous grâce à la notion. Un très très grand merci Hélène Frappa d'avoir été avec nous pour évoquer ce livre, Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Il est paru aux éditions de l'Observatoire et puis on peut voir ou revoir le film de Georges Cukor, Gaslight, Antise en français, tout à fait disponible en DVD. Et je renvoie aussi nos auditeurs bien sûr à votre précédent ouvrage, le magnifique Trois femmes disparaissent, paru il y a quelques mois chez Actes Sud.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Comme chaque mercredi dans cette émission, l'heure est venue de nous intéresser à la littérature destinée aux plus jeunes d'entre nous. Et aujourd'hui, c'est vous, Raphaël Botte, qui allez nous en parler. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mathilde.
Merci beaucoup d'être avec nous et de vous prêter au jeu de cette chronique. Raphaël, vous êtes journaliste, vous travaillez dans ce champ littéraire depuis des années. Et aujourd'hui, vous nous parlez de romans destinés aux adolescents et d'une thématique précise qui relie plusieurs d'entre eux que vous avez lus et aimés ces derniers temps.
Voilà, je me suis dit que j'allais profiter de ce petit passage au Book Club pour approfondir. Alors il se trouve que l'une des caractéristiques des romans jeunesse et ados, c'est de souvent mentionner de façon très explicite d'autres œuvres. Alors bien sûr, vous allez peut-être penser que c'est logique, que c'est à visée pédagogique, pour apprendre en lisant, pour élargir le champ culturel de ces esprits, de ces jeunes esprits. Mais en fait, non, la littérature jeunesse, ben, c'est pas un cours de culture générale déguisé en roman. Et là, justement, j'ai lu récemment Premier rôle de Michaël Olivier, qui est paru aux éditions Thierry Magnier. Et cette caractéristique de référence culturelle m'a à nouveau sauté à la figure. Alors pour faire vite, Laura, la narratrice, vient de perdre sa grand-mère adorée et la tristesse la pousse vers l'écriture et on découvre des passages assez étonnants. Et Mathilde, je vous laisse aller page 19 et nous lire le début du chapitre pour nous donner un aperçu.
D'accord, donc je lis le début du texte, page 19. Frank Capra, Robert Guédiguian, Pedro Almodovar, James Gray, Nadine Labaki, Howard Hawks. La liste continue, elle occupe presque toute la page en fait. Et si on va jusqu'au bout, ça se termine par Sergio Leone et Céline Sciamma.
Et ça continue la page d'après. Donc ce sont donc des réalisateurs, des réalisatrices. Sachez aussi que la grand-mère a appelé sa petite-fille Laura en hommage au film d'Otto Preminger de 44. Donc vous l'avez compris, ici les références cinématographiques sont assez exigeantes. Elles ne servent pas du tout à établir une connivence avec l'adolescent lecteur sur le mode « tu vas aimer mon roman, je regarde les mêmes séries que toi, je lis les mêmes mangas, patati, voilà ». Pas du tout. Ici, on a affaire à une grand-mère, dingue de cinéma, une femme qui a passé toute sa vie à attendre le mercredi, le jour des sorties, et à sa petite-fille qui raconte son enfance à ses côtés. Alors, j'ai commencé cette chronique par cet exemple car je le trouve assez osé, assez gonflé. Je ne sais pas si un jeune lecteur foncera ensuite pour regarder tel ou tel film. Mais en fait, c'est pas vraiment la question. C'est un roman qui est porté par une intrigue et dont l'épaisseur des personnages dépend en partie de ses références constantes au cinéma. Elles servent ce qui fait littérature, qu'on les ait ou qu'on les ait pas. Et la maîtrise de la référence ne conditionne pas l'appréciation du roman.
Et vous remarquez, Raphaël, que c'est un peu la même problématique qui se pose avec les références littéraires, cette fois.
Ben voilà, et j'ai par exemple pensé à un autre coup de cœur que j'ai eu récemment, qui est « Qu'est-ce qu'on fout ici ?» de Shaïn Kassim, qui est paru chez Gallimard jeunesse. Et là, l'un des personnages principaux, Julianne, il a cette femme éponyme, donc qu'est-ce qu'on fout ici, qui est tatouée sur le bras en hommage à Blaise Cendrars. Alors j'ai passé un petit coup de fil à Shaïn Kassim, et elle m'a expliqué combien pour elle, cette référence littéraire, elle était complètement explicite, elle était constitutive à son personnage. Et souvent, quand elle travaille, elle se demande justement ce que lit son personnage. Elle m'a dit que L'Or, donc le roman de Blaise Cendrars, était presque la carte d'identité psychique de Julianne. Ce sont vraiment ses mots. Donc, mais à côté de ça, elle se considère pas du tout comme une passeuse. Elle ne s'occupe pas de savoir si son lecteur adolescent va avoir envie de découvrir ou pas Blaise Cendrars.
Ouais, en fait, elle est romancière d'abord, elle n'est pas professeure.
Eh bien non. C'est pour ça que j'ai continué ma réflexion en discutant aussi avec une amie professeure de lettres au collège. Mais elle, justement, elle m'a aussi assuré que ses références explicites étaient parfois très porteuses et pouvaient conduire ses élèves vers d'autres livres. Et au-delà, elle m'a surtout rappelé quelque chose d'essentiel. Dans la littérature, un auteur écrit toujours à partir d'autres œuvres. Et pour cette professeure, ses références explicites dans un roman pour les ados, c'est la possibilité d'introduire qu'au-delà d'une expérience de vie, un auteur s'inscrit dans quelque chose de plus vaste. Ça permet pour eux de sentir qu'un livre a des racines, qu'il y a une profondeur. Voilà. Et pour conclure, je vais me référer une fois n'est pas coutume à Clémentine Beauvais. Et dans son essai « Écrire comme une abeille », donc qui est aussi publié chez Gallimard Jeunesse, elle insiste sur le fait que le jeune lecteur, par définition, il rencontre les références avant de connaître les œuvres originales. Et elle souligne, avec son humour et son ton qui la caractérise, que ce n'est pas pour autant donner de la confiture à des cochons. Elle rappelle que la langue littéraire est par essence chargée de références diverses et que les rencontrer en lisant un roman ado, c'est se confronter à cette intertextualité. Et puis ces romans ados, ils rejailliront peut-être un jour à leur tour en regardant un film d'Otto Preminger ou en lisant Blaise Cendrars, qui sait.
Absolument, merci beaucoup Raphaël. La chronique Lecture Jeunesse est à réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. h 55, c'est l'heure de notre grand jeu des pages musicales. Au détour d'une lecture, vous tombez sur l'évocation d'un morceau musical. Vous prenez en photo l'extrait en question ou vous le relevez par écrit et vous nous l'envoyez via le compte Instagram du Book Club ou sur notre adresse email lebookclub@radiofrance.com. Cela nous permet de constituer une petite collection d'extraits et chaque jour, nous en choisissons un pour le partager avec vous. Aujourd'hui, c'est Claudia qui nous envoie un extrait du livre de Lucie Rico par l'an dernier aux éditions POL. Sandrine ralentit encore lorsqu'elle entre dans une petite rue de maison à l'anglaise, en briques rouges, basses et laides. Sandrine déteste les maisons, elle préfère les immeubles, elle t'a déjà dit « Pour rien au monde, je n'habiterai dans une maison. On est seul dans une maison, on n'entend rien dans une maison. » À mesure que Sandrine s'avance dans cette rue sans intérêt, s'enfonce dans le confort résidentiel, tu te demandes quel lien elle peut entretenir avec ce lieu. Tu vois mal sa sauvagerie s'en accommoder. Seuls les magnolias qui fleurissent dans les jardins et les maisons, dans les jardins des maisons, te ramènent à ton amie, à votre première discussion. Elle t'avait écrit « Je ne sais plus comment faire, les magnolias sont toujours là, elle compte peut-être refaire sa vie ici, près des magnolias ».
Comme des
Et ce livre de Lucie Ricot, j'ai oublié de le dire, s'appelle GPS. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Marie-Claire Oumabadi. À la réalisation, Liz Combe. Un grand merci à l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Anouk Delfino, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Léa Weissgruss, Didier Pinault, Alexandre Alaï-Bégovitch et Marie Richeux. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, vous abonner à son podcast via l'application Radio France. Vous pouvez nous écrire via le site de l'émission ou à l'adresse mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com. Très bon après-midi à toutes et à tous sur France Culture.